Merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est 13h30 ici à Paris. Une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe et puis à midi, temps universel, votre journal Charlotte Hydrac en ce 8 mai, premier jour d'une trêve décrétée par la Russie en Ukraine.
Un cessez-le-feu théorique, une farce selon Kiev qui accuse Moscou d'attaquer sur toute la ligne de front. La Russie, elle, accueille le président chinois Xi Jinping pour les célébrations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie commémorée en Russie demain et Pékin, vous l'entendrez, a réaffirmé son soutien au Kremlin. À suivre aussi dans le journal, l'Inde et le Pakistan qui s'accusent mutuellement d'attaques de drones ce jeudi. Patience encore avant l'élection d'un nouveau pape. C'est une fumée noire qui est apparue au-dessus de la chapelle Sixtine au Vatican à la mi-journée. Et puis on reviendra sur la soirée de folie à Paris avec la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions.
À tout à l'heure Charlotte.
À tout à l'heure.
RFI, l'Europe à midi.
Ce jeudi est donc une journée de commémoration en Europe. Il y a 80 ans, le régime nazi capitulait, signait la reddition de l'Allemagne et par là la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des millions de morts, des destructions jamais vues sur le continent et le génocide des Juifs mené par une machine de mort inédite. À l'époque, les nazis étaient vaincus par les États-Unis, le Royaume-Uni, les résistants français et la Russie dont l'armée a joué un rôle majeur. Mais aujourd'hui, les anciens alliés s'opposent et à cause de la guerre en Ukraine, les officiels russes n'ont pas été conviés aux commémorations marquant la signature de l'armistice. Pascal Thibault.
Berlin-Karlshorst, à côté d'un bâtiment construit pour l'armée allemande à la fin des années 30, un char soviétique trône dans le jardin et rappelle la libération du pays par l'armée rouge en 1945. Le bâtiment qui devient après la guerre le QG des forces soviétiques en Allemagne héberge au rez-de-chaussée la salle historique inchangée où les autorités allemandes signèrent leur capitulation sans condition le 8 mai 1945 après l'avoir fait à Reims la veille. Le directeur du musée Jörg Moré n'interdit pas l'accès aux Russes mais veut éviter une instrumentalisation pour des raisons politiques. L'historien critique pourtant la décision de Berlin de ne pas inviter les diplomates aux commémorations aujourd'hui.
Je trouve ça problématique car la Russie a tout à fait le droit de rendre hommage à ses soldats tombés durant la Seconde Guerre mondiale. La guerre que mène aujourd'hui la Russie contre l'Ukraine n'y change rien.
Lors de la cérémonie aujourd'hui au Bundestag, en présence du nouveau chancelier Friedrich Merz, aucun diplomate étranger n'a été invité pour ne pas mettre en exergue l'exclusion de la Russie. Mais cette politique justifiée par l'agression de Moscou contre l'Ukraine provoque des critiques. Le pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale doit-il décider quels vainqueurs peuvent participer à ces commémorations? Pascal Thibault, Berlin RFI.
Voilà, l'Allemagne qui a exclu les représentants russes des commémorations à cause de la guerre en Ukraine. Guerre qui se poursuit selon Kiev et ce malgré la trêve annoncée par Moscou en ces jours de mémoire. 80 ans après la fin de la guerre, l'Europe commémore donc la signature de l'armistice et la libération.
Eh bien, c'était la grande euphorie à Grenoble. Tout le monde chantait, on dansait. On a dansé presque tous les soirs après.
Le souvenir de Daniel Huillier, 97 ans aujourd'hui, qui s'est confié à Arnaud Pontus. Il était adolescent et pendant la guerre, il a aidé la résistance aux côtés de son père.
Mon père prévenait ses amis du plateau de Villard-de-Lans. Hein, il y a quatre communes. Il avait 5-6 amis, très sûr. Voilà le départ de l'équipe du Vercors.
Vous, à l'époque, vous étiez tout jeune, hein, vous aviez...
Mais j'étais dégourdi.
Vous aviez 12 ans, juste adolescent à l'époque.
J'étais très proche de mon père.
Hein. Vous avez été résistant, un jeune résistant. Qu'est-ce que vous faisiez à 15 ans?
J'écoutais ce que mon père disait de faire. Et ensuite, à 16 ans, quand le Vercors était fermé, j'étais avec mon père tout le temps. J'étais agent de liaison. Alors, on était à Saint-Martin-Vercors. On avait 4-5 camions et 7-8 cars.
Vous dites agent de liaison, ça veut dire que vous transmettiez des messages, mais que votre père vous avait interdit de toucher à une arme, c'est ça?
Ouais. 3 jours avant la dislocation du Vercors, distribution d'armes à tout le monde. Alors je suis allé à la distribution, j'ai pris une mitraillette avec un paquet de balles, enfin c'était dans une boîte en aluminium, et je suis allé monter ça chez des amis là, qui étaient paysans, meuniers. J'étais très, 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 très prudent. Hein, parce que mes copains, ils étaient tous fous. Moi, je réfléchissais avant d'agir. Voilà.
Un extrait du témoignage de Daniel Huillier avec Arnaud Pontus. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur RFI.fr. Je vous propose maintenant d'écouter un autre témoignage. En prévision de cette journée de commémoration, j'ai téléphoné à Lily Lénier, survivante de la Shoah. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Cela fait 82 ans que vous avez été déportée. Est-ce que vous avez compris à ce moment-là ce qui se passait pour vous et votre famille ?
À vrai dire, je n'avais rien compris à ce moment. Vous savez, au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans et j'étais avec deux frères plus jeunes que moi encore, l'un de 9 ans et demi et 3 ans et demi. Et nous, les enfants, nous ne comprenions rien. Le jour de l'arrestation, figurez-vous, nous nous étions préparés la veille pour célébrer l'anniversaire de maman. C'était un grand jour pour nous. Et nous, les enfants, on avait fait de beaux dessins, on se préparait à ce grand jour. Et puis, en pleine nuit, à 3 heures du matin, la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. Donc, nous ne nous y attendions pas. Mais maintenant, quand je témoigne, parfois les élèves posent la question « Avez-vous été dénoncé ?» Je dis « C'est fort possible, puisque nous étions fichés. »
Vous avez été arrêtée avec votre famille en pleine nuit, puis conduite dans un centre dit de transit en Belgique et ensuite dans un camp de concentration, deux camps de concentration, si j'ai bien compris, d'abord à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen.
Effectivement.
Comment est-ce que vous avez vécu tout cela ?
Nous, les enfants, nous nous demandions pour quelle raison l'on nous mettait en prison. Nous étions des enfants sages, obéissants, nous ne comprenions pas encore. Nous avons été menés, maman, les trois enfants, à Ravensbrück. Papa, nous l'avons su bien plus tard, bien, bien plus tard. Il avait été mené dans un camp pour hommes, toujours en Allemagne également. C'était Buchenwald, d'où il n'est pas rentré. Il a été assassiné, je dis, par les nazis. Ce n'est qu'avec les journées passées dans ce camp que nous avons appris la raison pour laquelle on nous avait arrêtés et conduits dans ce camp infâme. La raison, c'est que nous étions une famille de juifs et donc destinés à périr.
Vous, vous avez survécu. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de ce qui vous a permis de tenir ou est-ce que ça relève du mystère et du miracle encore ?
C'est la présence de maman, bien entendu. Je dis toujours, sans elle, nous ne serions pas rentrés. Elle était exceptionnelle, maman. Pourtant, nous ne la voyons pas beaucoup, puisque le matin, après l'appel, les femmes, les déportés partaient à l'arbeit, au travail. Et nous, les enfants, nous restions terrés dans nos blocs. Pendant deux années, notre deux années de déportation, nous étions comme des ombres. Tant nous avions peur de ces SS, de ces nazis inhumains et surtout de leurs chiens. Vous savez que plus de 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. J'ai été marquée par eux.
Deux années dans la peur et puis la fin de la guerre qu'on commémore aujourd'hui, la signature de l'armistice est survenue un peu moins d'un mois après la libération du camp. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ?
Eh bien, vous savez, en février 1945, l'on nous a transportés dans un autre camp qui s'appelle Bergen-Belsen. Bergen-Belsen était appelé aussi le camp de la mort lente. Il y avait une épidémie de typhus et c'était donc des cadavres qui partout, on voit dans les films, les documentaires de libération du camp par les Anglais, il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Et puis, c'était un camp encore bien plus dur, bien plus inhumain que Ravensbrück. Ne fût-ce que 15 jours de plus, nous ne tenions pas. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück où déjà nous crevions de faim. Mais surtout, au bout de quelque temps, nous constations que maman était bizarre. Elle gisait sur le sol. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. Donc, vous voyez, c'était un moment pénible. Vous savez, comme tous les déportés, nous sommes passés par l'hôtel Lutetia à Paris. Et pour moi, c'est encore un moment assez c'est douloureux parce que je voyais toutes ces familles qui venaient accueillir leurs déportés. Et pour nous, il n'y avait personne. Et ce n'est que bien après que nous sommes rentrés chez nous dans le Nord que nous avons pu nous reconstruire, non, parce que ça a pris des années, des dizaines d'années, mais que nous avons pu remonter un peu la pente.
Juste après la libération, est-ce que vous avez pu parler ?
Ah non. Aucun déporté n'a pu parler aussitôt. Vous savez, il fallait le temps de se remettre de cet enfer. Donc, ça a pris plus ou moins de temps.
Au-delà de ce traumatisme des survivants, pensez-vous que la France, l'Europe d'après-guerre, était prête à entendre le calvaire des déportés et notamment des Juifs au moment de la libération ?
Eh bien, je pense que le monde entier, et la France bien entendu, n'était pas encore capable d'entendre tout cela. On ne nous croyait pas, c'était vexant. Donc nous nous taisions et beaucoup de déportés n'ont pas pu en parler du tout de toute leur vie. Ça peut se comprendre, c'est un sujet lourd, pénible, mais certains ont commencé et moi j'ai repris avec l'apparition des négationnistes.
Pour contrer ce discours qui a fait surface dans les années 80 ?
Oui, c'est tout au début des années 80, effectivement, fin 70, tout au début des années 80, j'ai commencé à témoigner. J'étais timide à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. Et j'ai témoigné, c'est indispensable de transmettre tout cela. Les déportés en rentrant, on dit plus jamais cela. Et vous voyez, le mal est partout en ce moment. Mais Je suis une optimiste, une positive, et je dis, les enfants, un jour viendra, lointain peut-être, mais un jour viendra où il y aura la paix dans le monde grâce à nos jeunes qui sont décidés à transmettre à leur tour. Et vous savez, même, c'est adorable, des petits de 14 ans qui disent « Madame, plus tard, quand j'aurai des enfants, je leur parlerai de la déportation, je leur parlerai de vous. » Et je dis « C'est formidable, ils ont tout compris. »
Je vous remercie infiniment, Madame Lily Lénier, survivante de la Shoah, d'avoir transmis justement cette parole et d'avoir raconté ce que vous avez vécu à cette période. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Madame. Merci.
Et pour prolonger la discussion, nous recevons notre consoeur Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24 et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour.
Bonjour Anne.
Vous avez beaucoup travaillé sur ce conflit, vous y avez consacré des livres, des enquêtes, des documentaires, dont le dernier, nous rentrerons ensemble, est à découvrir sur le site de France 24. C'est l'histoire d'une amitié dans le camp de Ravensbrück, le plus grand camp pour femmes, où était aussi détenue Lily Lénier qu'on vient d'entendre. Elle nous parlait de l'amour de sa mère qui l'a aidé à tenir le coup. Pour les deux femmes que vous avez rencontrées, c'est l'amitié.
Oui, c'était exactement ça. C'est ce qui m'a intéressée dans cette histoire. En lisant beaucoup de témoignages, je me suis rendu compte que c'était le dénominateur commun entre toutes ces femmes, celles qui ont eu la chance de raconter leur histoire quand elles sont revenues. Elles ont tenu, vraiment, elles ont survécu grâce à l'amitié. Il y a aussi Jacqueline Fleury qu'on a interrogée pour le web documentaire, qui est l'une des dernières escapées de Ravensbrück encore en vie, qui nous a parlé de cette main tendue, le fait de découper un brin d'herbe. Vraiment, c'était ça, c'était une question de survie, de donner des petits cadeaux, des petits présents pour tenir le coup. Et c'est ce qui est très beau et positif dans toute cette horreur qu'elles ont pu vivre lorsqu'elles étaient déportées.
On a entendu à quel point le récit des survivants des camps était difficile à entendre dans la France de l'immédiate après-guerre. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu aussi lors de vos recherches ?
Oui, d'ailleurs, dans le cadre de ce documentaire, en fait, il est consacré donc à une femme qui s'appelait Suzanne Latapie, quand elle s'est mariée. Et en fait, on a pu récupérer un enregistrement qu'elle avait fait en 1991 avec des élèves lors du concours national de la résistance et de la déportation. Et en fait, c'était la première fois qu'elle s'exprimait, donc en 91, elle est décédée en 92, donc c'est le seul enregistrement en plus qui existe. Et dans cet enregistrement, elle explique que quand elle est revenue, bah, personne ne voulait les écouter, personne ne voulait les entendre, personne ne les croyait, en fait. C'est ce que dit Lily tout à l'heure quand on l'a entendu dans votre sujet. C'était, voilà, trop difficile à transmettre. Et quand les gens sont revenus aussi, là, donc on est en mai 1945, ils sont revenus dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, ça faisait déjà un an que la France était libérée, les gens étaient finalement passés à autre chose, avaient repris le cours de leur vie, donc ils sont revenus dans une société qu'ils ne connaissaient plus, et les gens n'avaient tout simplement pas envie de les écouter, et beaucoup de mal à les croire en fait, parce que voilà, ce qu'ils pouvaient raconter sur ce qu'ils avaient vécu dans les camps, les résistants et aussi les déportés juifs, c'était à peine croyable.
Et pourtant, la parole, c'est central, hein. Aujourd'hui, ils et elles sont de moins en moins nombreux à pouvoir témoigner. Vous travaillez aussi beaucoup dans les écoles, dans les lycées. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Lily Lénier qu'on a entendu il y a quelques minutes?
Oui, parce que j'ai eu la chance d'assister à l'une de ses interventions. Lily est formidable. Elle va d'établissement en établissement toutes les semaines. Il y a ce contact qui passe parce qu'il l'écoute. En fait, c'est une jeune fille qui avait leur âge quand elle a été déportée. Bon, alors c'est l'une des dernières, c'est un peu ça la crainte, parce que c'est sûr, quand ils écoutent ce témoignage direct, il y a quelque chose qui se passe et ils vont le retenir tout au long de leur vie.
C'est pas la même chose que d'apprendre dans un livre.
Oui, exactement. Donc c'est maintenant, il faut trouver d'autres moyens pour transmettre cette histoire, parce que Lily est âgée et les dernières personnes qui ont été déportées voilà, sont plutôt sur la fin de leur vie. Donc c'est pour ça que nous, on a fait ce web documentaire, on en fait des adaptations en bande dessinée. Je sais qu'il y a un auteur qui travaille aussi sur une adaptation en bande dessinée du parcours de Lily. Donc une fois que malheureusement elle ne sera plus là, ce sera aussi une autre manière de continuer à transmettre. En fait, c'est ce qu'ils disent, c'est que ces jeunes deviennent les témoins des témoins et c'est à eux de reprendre le flambeau.
Merci beaucoup Stéphanie Trouillard d'être venue nous voir, journaliste à France 24. Votre dernier documentaire, web documentaire, est à découvrir sur le site de France 24. Il s'appelle « Nous rentrerons ensemble ». Merci.
RFI Midi, Anne Contner.
Toute la presse européenne marque cette journée du 8 mai, date qui prend un sens nouveau aujourd'hui, écrit El País. L'Europe qui commémore l'armistice est une Europe fracturée par de nouvelles guerres. Chaque commémoration fait référence au passé, rappelle le journal, mais parle du présent et d'un monde qui a changé. Au Royaume-Uni, 2 minutes de silence ont été observées en présence du roi Charles III et du Premier ministre. Keir Starmer, qui fait aussi la une en raison de l'accord commercial qu'il a trouvé avec les États-Unis, confirmé par Donald Trump, et cela amène The Independent à se demander comment le Keir Starmer à deux vitesses est devenu Keir Starmer aux deux accords. Celui-ci donc, un autre avec l'Inde et peut-être un troisième à venir avec l'Europe, prévient le quotidien britannique. Et puis The Guardian, lui, nous explique comment les millennials sont devenus ringards. C'est nous, hein ? Moi, Vincent, le réalisateur de cette émission. Ces dernières années, les millennials, ces jeunes autrefois branchés qui semblaient si avant-gardistes lorsqu'ils étaient mis côte à côte avec les baby-boomers, déconnectés de la réalité et de la génération X plutôt quelconque. Ils sont devenus, nous dit le quotidien britannique, un peu gênants. Je vous passe les détails, ça concerne essentiellement le style, la manière de porter les chaussettes et de prendre des selfies.
RFI à Paris, 89 FM.
Beaucoup de bruit hier soir au Parc des Princes, des supporters survoltés qui ont vu leur club se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Le PSG a de nouveau battu Arsenal. 2-1, tentera de remporter la compétition pour la première fois de son histoire. Fin mai, le 31 à Munich, face à l'Inter Milan. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Anne.
Paris a réussi son pari, mais il lui reste une marche à franchir, peut-être la plus importante.
Et oui, il y avait beaucoup de joie hier au Parc des Princes. Vous l'avez entendu, de la fierté chez les joueurs. Chez l'entraîneur aussi, Luis Enrique. Cette finale vient récompenser tout le travail du club et la saison magnifique en Ligue des Champions. Un joli parcours avec notamment l'élimination de Liverpool, l'élimination d'Aston Villa et celle donc d'Arsenal. C'est un petit peu tout le foot anglais qui s'est cassé les dents sur Paris. Joli parcours qui se terminera, vous l'avez dit, à Munich pour la deuxième finale de l'histoire du club après celle perdue en 2020 face au Bayern Munich.
Le PSG qui a maintenant 3 semaines pour préparer ce grand rendez-vous.
Oui, alors d'ici là, il y aura 2 matchs de Ligue 1 sans enjeu contre Montpellier-Auxerre. Sans enjeu car Paris est déjà champion depuis bien longtemps. Et puis une finale de Coupe de France contre Reims le 24 mai. Ce sera quand même un trophée à aller chercher. Une semaine avant de retrouver l'Inter à Munich, l'entraîneur Luis Enrique risque de faire tourner pour éviter toute blessure ou mauvaise surprise. Ça devrait permettre à Ousmane Dembélé, par exemple, remplaçant hier et blessé la semaine dernière, de retrouver tous ses moyens.
Paris qui affrontera donc l'Inter Milan, 2 équipes qui ne se sont jamais rencontrées en compétition officielle.
Alors c'est très rare de voir ça entre 2 cadors européens, mais effectivement, pas de match entre Paris et l'Inter Milan au niveau européen. L'Inter qui a remporté la compétition 3 fois en 1964, 1965 et 2010. Ce sera la 7e finale pour le club milanais que connaît bien Achraf Hakimi. Le latéral marocain, buteur hier, a joué 1 saison avec les Nerazzurri et il en garde de très bons souvenirs. Cette finale sera donc particulière pour lui.
Ouais, c'est un moment, je pense, spécial de jouer en finale contre une équipe qui a à mon cœur. J'ai passé des moments très bons avec Inter et je suis content de voir mes anciens coéquipiers. Mais maintenant, je devais rester concentré pour Paris et travailler pour Paris pour ramener un chose que je voulais ramener depuis longtemps.
Achraf Hakimi, qui, on le rappelle, fait partie des trois finalistes au prix Marc-Vivien Fauet, décerné par RFI. Hakimi et le PSG, donc, qui espèrent écrire la plus belle page de l'histoire du club. On rappelle que Paris n'a jamais gagné la Ligue des Champions.
Le prix Marc-Vivien Fauet qui sera décerné
lundi, les finalistes, je vous le rappelle, Evan Guessant, Habib Diarra et donc Achraf Hakimi du PSG. Réponse dans Radio Foot International lundi.
À suivre évidemment sur notre antenne. Merci Cédric d'Oliveira. Fumée noire ce midi à Rome, les cardinaux réunis en conclave n'ont pas encore désigné le nouveau pape. Deux tours de vote auront de nouveau lieu cet après-midi. Les électeurs restent donc enfermés dans la chapelle Sixtine. Et tout est fait pour préserver le secret, Dominique Dezonnet.
Oui, la chapelle Sixtine, dans laquelle se déroule le conclave, est devenue ainsi une véritable forteresse numérique. Mais dans un monde hyper connecté, eh bien, le Vatican a dû redoubler de vigilance en déployant de nouvelles technologies afin de maintenir le secret absolu qui entoure les discussions et les votes des cardinaux. Déjà utilisé lors des funérailles du pape François, le journal italien Le Corriere della Sera mentionne que la garde suisse pontificale et le corps de gendarmerie de l'État de la Cité du Vatican disposent de bazookas anti-drones, un arsenal prêt à neutraliser tous les appareils qui tenteraient de violer l'espace aérien du Vatican. Un conclave qui est aussi ultra protégé à l'aide de dispositifs de brouillage électronique perturbant les fréquences et les communications de la téléphonie mobile dans toute la zone.
Ces brouilleurs de réseau, on les retrouve aussi à l'intérieur de la chapelle Sixtine.
Effectivement, depuis 2013, ils sont installés dans un faux plancher qui recouvre les dalles de la chapelle pour bloquer tout signal radio émanant de l'édifice. Les équipes du Vatican ont également balayé la bâtisse et la maison d'hôte dans laquelle séjournent les cardinaux à l'aide de scanners afin de s'assurer qu'aucun microphone caché n'était en place. Des équipes spécialisées ont été chargées de vérifier les prises, lampes, boiseries, fenêtres afin d'éliminer tout dispositif d'espionnage et traquer les outils d'écoute sophistiquée comme les lasers acoustiques qui sont capables de capter des conversations à distance. Les personnels habilités à pénétrer dans la zone du conclave comme les cuisiniers, les personnels d'entretien ou les agents de sécurité passent systématiquement au détecteur de métaux à chacun de leurs déplacements. Les cardinaux sont soumis au même régime avec l'interdiction de garder leur mobile, d'apporter un ordinateur, une montre connectée ou un vieux dictaphone qu'ils auraient négligemment oublié au fond de leur soutane. Par ailleurs, une cage de Faraday géante couvrant la zone du conclave les isole totalement des ondes électromagnétiques comme celles que diffusent les radars.
Et les équipes de sécurité du Vatican ont mis en place des contre-mesures pour se prémunir des regards indiscrets de satellites espions.
Oui, les satellites militaires en orbite sont désormais capables de prendre en vidéo les visages des personnes depuis l'espace, des images que l'intelligence artificielle peut parfaitement interpréter en analysant le mouvement des lèvres. C'est la raison pour laquelle des films de protection opaques ont été apposés sur toutes les fenêtres de la chapelle Sixtine. Et quand c'est secret, nous rappelle le Vatican. Si un cardinal est pris en train de communiquer ou discuter avec un individu extérieur, il encourt l'excommunication pour avoir trahi son serment de ne jamais rien divulguer sur l'élection du nouveau souverain pontife, enfin presque, car le pape François a lui-même enfreint cette règle en révélant dans un livre les tentatives ratées des cardinaux en 2005 pour bloquer l'élection de Benoît XVI.
Merci Dominique Dezonnet, à demain. Alors que la guerre fait rage au Soudan, comme vous pouvez l'écouter chaque jour depuis une semaine dans les reportages de notre envoyé spécial à Khartoum, un film propose de se rappeler de la révolution, des promesses entrevues à la chute d'Omar el-Béchir en 2019. Ce documentaire sort aujourd'hui dans les salles françaises. Il s'appelle « Soudan, souviens-toi ». Il est signé Hind Medeb, qui est au micro d'Elisabeth Le Carré. Hind Medeb, bonjour.
Bonjour.
En mai 2019, vous êtes parti au Soudan. Le pays était en pleine révolution après la destitution du régime dictatorial. Au moment où vous partez, quels sont vos liens avec ce pays ?
Je venais juste de présenter un mois plus tôt à Cinéma du Réel mon précédent film qui s'appelle Paris-Stalingrad et dont le personnage principal était soudanais. Et en tournant ce film Paris-Stalingrad entre 2016 et 2019, je me suis liée d'amitié avec des réfugiés soudanais, la diaspora soudanaise à Paris, des réfugiés politiques. Et donc, quand la révolution a commencé au Soudan et qu'il y a eu la chute d'Omar el-Bashir au mois d'avril 2019, ses amis soudanais à Paris m'ont tous encouragé à partir au Soudan. En fait, ils avaient envie que je leur ramène des images de leur révolution. Ils n'avaient pas la possibilité d'y aller. Ils étaient en train de faire leurs papiers.
Donc, vous arrivez au Soudan, à Khartoum. C'est la révolution. Le pays est en pleine effervescence. Vous vous retrouvez entouré de jeunes gens qui vous appellent l'étrangère. D'ailleurs, certains sont des amis à vous. Comment on filme ces moments et comment on se sent dans ces moments ?
Alors c'était très impressionnant pour moi parce que c'était une ville entière, une ville utopique. C'est-à-dire que des Soudanais étaient venus de tout le pays et avaient installé des tentes et occupé toutes les rues. Et ils ont intitulé le lieu, enfin cette ville dans la ville, cette ville utopique, ils l'ont intitulé Etisam. Etisam en arabe, ça veut dire la place de l'attente. En fait, c'est l'endroit où on attend, c'est le sitting. C'est là où on attend que les choses bougent et changent. Donc les Soudanais, en fait, ont beaucoup d'humour et surtout, ils avaient une vision extrêmement précise de la société dont ils rêvaient et qu'ils voulaient instituer.
Hinbedeb, les gens que vous filmez, ils ont vraiment grandi sous le boisseau, dans un pays sans aucune perspective. Et ce qui est incroyable, c'est de les voir aussi ouverts, traversés par énormément d'idées, de concepts, la démocratie, enfin, y compris dans leur façon parfois naïve d'en parler.
C'est un pays qui était sur la liste des pays terroristes, le Soudan, pour les États-Unis par exemple. Tous les livres dissidents étaient interdits et c'est pour cette raison-là que plus les choses étaient interdites, plus les gens essayaient d'aller les chercher. Donc ça, c'est vrai que j'ai vu une jeunesse qui lit beaucoup plus que nous, une jeunesse pour qui la poésie est omniprésente. Tout ce qui constitue la trame du film, c'est l'écriture poétique et c'est la joute verbale poétique dans la rue.
Votre film, Hinbedeb, commence au moment actuel, donc au moment de cette guerre qui déchire le Soudan. Et tout le film est un flashback.
Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais revenir au titre, « Soudan, souviens-toi ». Le titre est inspiré d'un poème qui est à la fin du film. Et ce poème est un poème d'outre-tombe. Puisque en fait c'est un jeune homme qui a été tué dans une manifestation et il dit « Quand vous reconstruirez le pays, souvenez-vous de moi. Quand vous planterez un arbre et qu'il vous donnera des fruits sucrés, souvenez-vous de moi. » Ce film, je l'ai fait pour qu'on n'oublie rien de la puissance, de la beauté, de tout ce que ces Soudanais ont fait. Et je pense que c'est ça qui est important. Ne jamais oublier ce qui s'est passé. Comme nous, en France, on n'oublie jamais 1789. Les Soudanais n'oublieront jamais 2019.
Hinbedeb, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Hinbedeb, réalisatrice du documentaire « Souviens-toi » sur la révolution soudanaise. Dans deux minutes, un nouveau journal sur RFI et puis à midi et demi, temps universel, l'actualité africaine. Avec vous, Nicolas Sûr. Bonjour.
Bonjour, Anne Kantzner.
Et à la une aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, Jules Alinguete, le patron de l'inspection générale des finances, mis à la retraite. Sous sa direction, l'institution était devenue centrale dans le contrôle de l'action publique. Et puis les commémorations du 8 mai 1945. Il y a 80 ans, l'armistice mettait un terme à la Seconde Guerre mondiale en Europe, tandis qu'en Algérie, une répression féroce contre des indépendantistes commençait à Sétif et dans le Constantinois.
À tout à l'heure. De la musique pour nous accompagner jusqu'au prochain journal. La danse divine de Jojoa et Lieutenant Nicholson. C'est l'un des coups de cœur des programmateurs musicaux de RFI en ce moment.
RFI Midi.